Bonjour. Dans le topo que je vais vous proposer, je vais essayer de montrer que les différences entre les femmes et les hommes sont beaucoup moins importantes qu'on le croit, ou plus exactement que, en grande partie, elles sont construites par la société dans laquelle on vit. C'est ce que certains appellent la théorie du genre. Eh bien, on essaiera de se faire une idée un petit peu plus précise de cette fameuse théorie. Le titre de ce topo, c'est donc féminin, masculin, quel genre de différence? Eh bien, la première partie, c'est pour expliquer à quoi ça sert qu'il y ait une opposition, une différence entre les femmes et les hommes. Et en fait, c'est une différence qu'on trouve dans quasiment toutes les espèces vivantes. Je dis bien presque toutes les espèces vivantes, c'est-à-dire y compris chez les plantes. En réalité, dans beaucoup, presque toutes les espèces, j'ai dit, il y a des femelles. Il y a des mâles. Pourquoi? Parce que ça permet à chaque génération de mélanger le patrimoine génétique de la femelle et le patrimoine génétique du mâle, et le résultat, c'est que les petits sont tous différents. À chaque fois, le mélange est différent entre ce qui vient de la lionne et ce qui vient du lion, et donc on a des lionceaux tous différents. Et c'est un énorme avantage, parce que si jamais le climat change, si jamais une nouvelle maladie apparaît, si jamais le volcanisme transforme l'environnement, eh bien certains dans la différence, certains seront plus favorisés et d'autres le seront moins. Et c'est les plus favorisés qui, bien sûr, survivront le plus facilement. Tout ça permet ce qu'on appelle la sélection. Il ne faut pas croire que c'est depuis toujours, dans toutes les espèces, que cette différence entre le féminin et le masculin est dans le patrimoine génétique directement. Hein, quand il s'agit des poissons, des reptiles, etc., hein, il y a des femelles et des mâles, c'est vrai, hein, mais ce n'est pas déterminé dans le patrimoine génétique, c'est déterminé par l'environnement, l'acidité de l'eau, la température d'incubation des œufs. Bon. Mais dans l'évolution, dans l'origine des mammifères, eh bien, c'est l'apparition d'un déterminant bien précis qui va fixer que certains sont femelles et que certains sont mâles. Et c'est ce que vous connaissez bien sous le terme chromosome XY pour les mâles et chromosome XX pour les femelles. En passant, je peux dire que c'est apparu deux fois dans l'évolution, hein, et que chez les oiseaux, à partir de certains ancêtres des oiseaux, hein, il y avait aussi des femelles et des mâles fixés génétiquement. Et là, il ne s'agit pas de chromosomes X et Y pour une bonne raison, c'est que le mâle, c'est lui qui a deux chromosomes identiques, donc on a appelé ZZ, hein, et la femelle qui a des chromosomes Z et W. Alors, à part ce petit détour par la biologie, on va donc parler maintenant beaucoup de l'espèce humaine, de la reproduction de l'espèce humaine, hein, et puis en particulier, hein, de la façon de faire des petits, bien sûr, et de voir pourquoi les femmes et les hommes sont différents. Donc, ça suppose que les femmes et les hommes se rapprochent, hein, et certains d'entre vous vont peut-être trouver que cette image est un tout petit peu osée, mais je vous rassure tout de suite, il y aura un peu plus loin des images beaucoup plus osées. Mais pas celle-là. Celle-là montre justement le patrimoine génétique de l'homme, hein, il montre que dans l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes, hein, et que tout en bas à droite, vous avez un chromosome X et un chromosome Y, qui montre que nous avons affaire à un mâle, à un homme. Mais la première remarque sur qu'est-ce qui est féminin et qu'est-ce qui est masculin, c'est maintenant qu'elle arrive. Regardez bien. Tout ce qui est entouré en rouge ici n'est ni féminin ni masculin. Ce qui différencie finalement une femme d'un homme, ça se situe en bas à droite du tableau. Oui, l'ensemble, le couple de chromosomes XY, hein, est soit masculin, soit féminin. Hein, masculin s'il est XY, féminin s'il est XX. Mais tout le reste, qui nous produit tout un tas de choses de notre corps, le cerveau, le foie, tout un tas de choses, hein, n'est ni féminin ni masculin. Il y a le système hormonal dont on parlera tout à l'heure, mais il n'empêche, on peut dire que la grande majorité de nos gènes ne sont ni féminins ni masculins. Si on regarde de plus près ces deux chromosomes, X et Y, la première chose qu'on voit, c'est que le Y est un tout petit peu ridicule, quoi. Il est tout petit. Hein, les hommes qui croient qu'ils ont quelque chose d'extraordinaire de plus que les femmes, en regardant X et Y, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse. Les femmes ont deux chromosomes X, ce qui amène à un certain nombre d'avantages, Et les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Et on va voir que tout ce qui est important, qui différencie l'homme, hein, eh bien, c'est ce gène que j'ai dessiné en rouge là, qu'on appelle SRY. Hein, et c'est lui qui va déterminer si l'évolution de l'embryon va aller dans le sens d'une femelle ou d'un mâle. S'il est présent, ça va aller dans le sens d'un mâle. Mais remarquons que le chromosome X lui-même n'est ni féminin ni masculin, hein, parce que la femme en a, l'homme en a, donc il n'est ni féminin ni masculin. Ce chromosome, ce gène SRY va déclencher toute une cascade d'événements qui vont progressivement transformer une partie très intime de notre individu en organe reproducteur femelle ou en organe reproducteur mâle. À partir des mêmes tissus, à partir des mêmes tissus embryonnaires, eh bien, il va y avoir soit un pénis, soit un clitoris, hein, il va y avoir soit des lèvres, soit le scrotum et avec les testicules. Hein, c'est l'influence du système hormonal. SRY déclenche une cascade d'événements hormonaux qui va influencer un certain nombre de choses dans l'évolution. Et bien donc, voilà. Le petit bébé en question, ben, il va se développer. On pourrait savoir si c'est une dame ou un monsieur, pratiquement dès la fécondation, puisqu'on sait que c'est XX ou XY, hein, mais en réalité, tout ça va se développer progressivement. Il faut attendre plusieurs semaines avant que des organes reproducteurs un peu visibles, comme là, on voit que c'est un petit garçon, hein, qui vont permettre finalement la construction, dans ce cas-là, d'un homme. D'un mâle. Alors, vous allez dire, si on est venu pour nous dire que la principale différence entre les femmes et les hommes, c'est leurs organes reproducteurs, hein, vous allez dire que vous êtes déçu. Eh bien, finalement, le plus important est à venir. C'est que cette différence-là, c'est la différence principale. Mais tout le reste n'est ni féminin ni masculin. La diapo suivante, je suis obligé de vous préparer un peu, c'est une diapo qui montre en direct les organes reproducteurs. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Eh bien, voilà. C'est un tableau, remarquez, c'est une peinture de Gustave Courbet qui s'appelle L'Origine du monde. Cette peinture est très connue, hein, et elle représente, c'est vrai, l'origine du monde, puisque tous les humains, hein, viennent finalement de l'utérus de la femme. Hein. Mais vous avez vu que mon topo s'appelait féminin-masculin, hein, et donc vous vous doutez que la diapo suivante va être les organes reproducteurs de l'homme, et où, là aussi il s'agit d'une peinture beaucoup beaucoup plus récente, hein, dans laquelle on montre les organes reproducteurs de l'homme. Donc c'est ça la différence principale. Eh bien oui, c'est ça la différence principale, et pratiquement tout le reste est du social. Du social, par exemple, la longueur des cheveux. Pendant très longtemps, c'était les femmes qui étaient réputées avoir les cheveux longs et les hommes les cheveux courts. Alors, je fais simple, hein, c'est des exemples tout bêtes, si vous voulez, hein, et vous savez très bien qu'en réalité, la longueur des cheveux, bah, ça peut être long chez les hommes ou court chez les femmes, hein, et que c'est une question dite de mode. Bon, donc vous voyez que là, on est directement dans le social, c'est clair. Eh bien, il en va de même, bien sûr, de l'habillement. Hein. Et là, quand vous voyez ces deux jeunes femmes avec des pantalons, ne croyez pas, pendant très longtemps, ça a été obligatoire pour les femmes de porter des jupes, des robes et même des dispositifs comme celui qu'on voit sur la diapo. Et les deux femmes qui sont à gauche, dans les années 20, ont demandé l'autorisation du maire pour avoir le droit de sortir dehors en pantalon. Il s'agit donc bien de prescription sociale, de construction sociale, bien évidemment. Dans d'autres cultures, hein, l'habit peut bien être une robe comme la toge romaine, hein, ou le hakama japonais, hein, sans parler de la fustanelle grecque que vous connaissez. Hein, bon, voilà. Alors, on va prendre un exemple un tout petit peu plus, comment dire, démonstratif, si vous voulez. Dans certaines cultures des îles du Pacifique, on explique que ce sont les hommes qui montent au sommet des cocotiers. Et c'est pour eux évident. C'est l'homme qui a la musculature qui le permet, qui a la technique qui le permet, qui a le savoir-faire. Et la femme, eh ben, comme c'est elle qui porte les enfants, ben, faut la protéger, faut pas qu'elle prenne de risques, etc. Vous croyez que c'est naturel, ça? C'est complètement culturel. Dans d'autres îles, Pas loin, dans le Pacifique, il y a beaucoup d'îles. On va trouver d'autres cultures dans lesquelles on va dire c'est la femme qui monte au cocotier. C'est elle seule qui a la technique pour le faire. C'est elle seule qui a l'habitude, l'habileté et y compris la musculature pour le faire. Et comme ce sont les hommes qui déclenchent les bébés, eh ben, il faut les protéger. Et donc le même raisonnement vaut dans l'autre sens pour attribuer des rôles à la femme et à l'homme qui peuvent être complètement différents et même opposés dans ce cas-là. Il en va de même pour qui porte les colis les plus lourds. Bon, je me souviens de ces ethnologues qui voyaient revenir des personnes d'un village. Ils étaient tout contents, c'était des hommes, ils étaient tout contents, ils avaient tué un éléphant. Et l'ethnologue disait, mais où est-ce qu'il est? Et en rigolant, les hommes ont expliqué, bah, c'est les femmes qui vont aller le chercher. Oui, il y a beaucoup de cultures dans lesquelles ce sont les femmes qui portent les charges lourdes. Ça ne veut pas dire toutes les cultures, ça veut dire que c'est une attribution, un rôle distribué culturellement. Sachant que dans d'autres cultures, bien sûr, ce sont les hommes qui portent les charges lourdes, et je vous ferai remarquer que dans un cas comme dans l'autre, ils font la gueule. Encore un autre exemple, si je vous dis que dans beaucoup de cultures, les femmes s'occupent beaucoup de leur toilette, de la décoration, des bijoux, de leur apparence, etc., pendant que les hommes cultivent au champ et font de l'agriculture. C'est-à-dire, ah ben oui, ça c'est une répartition naturelle des rôles. Eh bien, pas du tout. Là, ici, en bas à droite, on est cette fois-ci en Papouasie. Eh bien, finalement, c'est une culture dans laquelle ce sont les hommes qui se préoccupent énormément de la toilette, qui fabriquent ces magnifiques décors, entre autres avec des coquillages qui viennent du bord de la mer, alors qu'ils sont tout en haut des montagnes, bon, des nacres assez extraordinaires. Hein, ils passent leur temps à tisser, à filer, à faire des colliers, pendant que les femmes cultivent les champs. Ce sont des attributions sociales de rôle. Il y a aussi la chasse. Très souvent, on dit que ce sont les hommes qui chassent. Ça dépend des cultures. Hein. Ici, on est au Tchad, je crois, les femmes peuvent partir ensemble. On dit qu'il faut qu'elles s'occupent des enfants, mais dans un groupe, il peut y avoir des personnes qui s'occupent des enfants et des femmes qui partent pendant plusieurs jours pour aller chasser. Avec un mode de chasse qui est souvent d'enfumer les terriers ou comment dire, de faire sortir des petits animaux comme ce qu'on voit sur cette illustration-là, et je vous expliquerai pourquoi juste après. De fait, c'est assez rare que ce soit les femmes qui se servent de l'arc et qui fassent couler le sang. Et bien, vous savez quoi? C'est culturel, bien sûr, hein, mais c'est un raisonnement culturel qui va peut-être vous surprendre. En réalité, les femmes, à certains moments, font couler involontairement du sang. Ça s'appelle les règles. Eh bien, beaucoup de cultures, j'ai pas dit toutes, beaucoup de cultures pensent que donc, du coup, ce sont les hommes qui ont le droit de faire couler le sang et volontairement. Et dans pas mal de ces cultures, quand la femme est indisposée, eh bien, l'homme, brusquement, n'a plus le droit de chasser, ou du moins pas avec l'arc, mais avec d'autres techniques. C'est une répartition culturelle qui repose sur toute une mythologie, tout un certain nombre de croyances culturelles. D'ailleurs, dans d'autres cultures ou dans les mêmes, hein, ce sont les hommes qui allument le feu, parce que là aussi on produit quelque chose de rouge, hein, volontairement, et ce sont soit les hommes, soit les femmes, c'est assez variable d'une culture à l'autre, qui vont entretenir le feu par la suite. Alors, est-ce que les femmes peuvent être soldats aussi? C'est une question qui s'est assez souvent posée. Hein, et là, vous avez un tableau de Tishbagne qui représente les Amazones. Alors, le tableau s'appelle La bataille des Amazones, et pendant très longtemps, on s'est demandé si c'était un mythe, s'il y avait bien eu réellement des femmes soldats. Et puis, ben, justement, jusqu'à ce que on s'aperçoive que les magnifiques monuments élevés en l'honneur de grands seigneurs, chevaliers, chez les Scythes en particulier, c'est-à-dire une population du nord-est de l'Europe, eh bien, ces grands seigneurs de la guerre qu'on avait enterrés avec leurs éperons, avec leurs armes et qui avaient les jambes déformées par le fait d'avoir chevauché longuement, eh ben, quand on faisait une analyse ADN, dans plus de la moitié des cas, c'était des femmes. Hein. Et donc, il y a eu réellement, hein, des armées de soldats qui ont fait la guerre dans les cultures du nord-est de l'Europe. Alors, c'est d'autres cultures aussi, comme là, on a affaire aux Linguères du Sénégal, il y a eu aussi les Amazones vierges du Dahomey, hein, et des cultures dans lesquelles il était de tradition culturelle, donc de tradition sociale, que ce soit les femmes qui portent les armes dans certaines circonstances, et est-ce qu'elles étaient plus cruelles? Eh ben, cette photo, ce dessin plus exactement, vous en donne un peu une idée. En tout cas, on peut apprendre les mêmes conneries aux femmes et aux hommes, et les armées dites modernes montrent bien que effectivement, les hommes et les femmes peuvent jouer à la guerre ou faire la guerre de la même façon. Une personne que je voudrais citer, c'est un livre en réalité écrit par Margaret Mead, que vous voyez ici sur une photo d'époque. Elle a écrit un livre qui s'appelle Mœurs et sexualité en Océanie. C'est un livre très intéressant qui montre que dans les différentes cultures qu'on trouve en Nouvelle-Guinée, en Papouasie, eh bien, il y a des cultures dans lesquelles ce sont les hommes comme les femmes qui s'occupent des enfants, qui sont très attentionnés, qui sont très doux. C'est des populations dans lesquelles la tendresse est très importante. La culture donc qu'elle décrit dans ce livre s'appelle les Arapesh. Mais elle raconte aussi qu'il suffit de traverser quelques montagnes, donc quelques semaines de marche, pour trouver une autre culture qui s'appelle les Monts d'Ougoumor, dans lesquels, au contraire, l'éducation des enfants se fait à la dure. Un enfant qui pleure, on l'attache dans son berceau et on attache le berceau à un arbre, et ou alors on lui donne un coup de pied et il se casse, voilà, les rapports sont beaucoup plus agressifs, et d'ailleurs, un enfant, pour devenir un homme, il faut qu'il ait tué un ennemi, y compris si les adultes du groupe tiennent par les bras et par les jambes l'ennemi de façon à ce qu'il le transperce avec un épieu. Alors voilà, les rôles tendres, les rôles de s'occuper des enfants, etc., varient d'une culture à l'autre et donc ne sont absolument pas biologiques. Et il y a des cultures dans lesquelles la douceur est de règle et d'autres cultures dans lesquelles la guerre est très fréquente. Ce sont des rôles attribués et aux femmes et aux hommes en fonction de ces cultures. Un autre livre que je peux vous citer en passant, c'est le livre d'Elisabeth Badinter qui s'appelle L'amour en plus, dans lequel elle raconte qu'à partir de la fin du XVIIe siècle, à un moment où il y avait vraiment trop de mortalité infantile, eh bien, toute la pression sociale a été exercée pour que ce soit les femmes qui s'occupent des bébés, des nouveau-nés, plutôt que de les envoyer en province, les faire élever des femmes qui allaitaient les enfants et qui s'en occupaient moins bien, et donc un certain nombre mouraient assez facilement et ne revenaient jamais en ville. Eh bien, d'une certaine façon, même ce qu'on appelle l'amour maternel est une construction sociale. Alors, on pourrait dire que l'amour pourrait être maternel ou paternel ou les deux, et que donc ça aussi c'est une répartition des rôles dans la société. La famille, eh bien la famille, c'est pas non plus quelque chose de biologique, de fondé. Si on demandait à des gens de ma génération de montrer une photo de famille, ça ressemblerait à ça. Ne me cherchez pas dessus, c'est pas ma famille, mais c'est une photo dans laquelle on voit les ancêtres, les parents, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, etc. Alors qu'aujourd'hui, si on demande de montrer une photo de famille à peu près qui que ce soit, il va vous montrer cette photo, avec le papa, la maman et les enfants, et culturel, bien sûr culturel. Si on va au Mali, par exemple, eh bien, on va demander à la petite fille qui est devant qui est la dame qui est derrière, elle va dire c'est ma maman, et celle qui est à côté, ben, c'est ma maman aussi, et la troisième et la quatrième, pour elle, ce sont toutes ses mamans. D'ailleurs, les différentes petites filles pourraient faire la même réponse, et la même réponse aussi vis-à-vis des différents hommes qui sont tous leur papa. Le papa biologique est quelque chose de, comment dire, d'important, c'est sûr, dans la procréation, mais qui peut être complètement gommé par la culture. C'est vrai que d'ailleurs que énormément de cultures anciennes fonctionnaient en groupe, et que l'idée d'un couple n'existait pas en tant que tel. Il y avait des accouplements, bien sûr, mais qui pouvaient être plus ou moins stables dans le temps. Et en tout cas, le plus important, c'est qu'on choisissait son partenaire dans l'autre moitié du groupe. Et ça, c'était la règle principale dans énormément de cultures anciennes. À propos de cultures qui ne fonctionnent pas du tout comme la nôtre et qui peuvent nous surprendre, je vais vous parler par exemple des Mosso, qui sont une culture en Chine, à la frontière du Yunnan et du Sichuan, et on l'a appelée une culture sans père ni mari. Vous savez pourquoi? Et bien parce que dans la même maison ne vivent que des frères et sœurs et les enfants des femmes. Alors vous allez dire, mais c'est quand même pas les frères qui font des enfants à leurs sœurs. Eh bien, pas du tout. Il y a bien des hommes, mais pas celui-là. Celui-là, c'est le frère d'une des mamans, par exemple, ce qu'on appellerait un oncle. Mais le père, eh bien, il n'est pas là, il n'est pas dans la maison. Il est venu à un moment. Il y a un père qui est rentré, d'ailleurs en général en escalade par la fenêtre dans cette culture-là. On passe une partie de la nuit avec une femme qui deviendra une maman, mais le papa en question, papa biologique dans notre culture, eh ben, il repart, il ne sait pas, il ne saura vraisemblablement jamais s'il a eu des enfants, hein, et les enfants sont élevés dans cette grande maison dans laquelle il n'y a ni père ni mari. Oh, des exemples comme ça, des ethnologues en ont vu énormément. Hein. Ici, on est chez les Samo, au Burkina Faso, qu'a étudié Françoise Héritier. Eh ben, la personne qui est là est promise dès son enfance à un mari. Alors vous allez dire, ah ben oui, on connaît très bien le fait bon, de marier dès l'enfance quelqu'un. Mais attendez la suite. La personne, la jeune femme en question, quand elle devient nubile, eh bien, elle va partir avec un autre homme. Et elle va rester vivre avec lui jusqu'à ce qu'elle ait un et parfois même plusieurs enfants. Et ensuite, elle rejoindra le mari qui lui a été promis, auquel elle doit, chez lequel elle doit arriver. Et elle va, les enfants vont être reconnus comme étant les enfants du mari en question. La paternité biologique est complètement, comment dire, gommée, elle n'a pas d'importance. Les enfants appartiennent au père qui est la personne avec laquelle vit cette femme. D'ailleurs, dans les rôles de papa et de maman, on peut très bien retrouver des femmes dans le rôle de papa. Ici, on est chez les Nuers. Hein, et dans cette culture-là, une femme stérile, une femme d'un certain âge, peut très bien décider d'épouser une jeune femme. Alors bien sûr, elle ne va pas lui faire un enfant, elle va lui choisir un amant, et c'est cet amant qui va lui faire un enfant. Mais dès que l'enfant sera en route, eh bien, l'amant disparaît, et c'est la femme d'un certain âge qui est la mère, qui est le père, pardon, hein, et qui a toutes les attributions de la paternité et tous les rôles de l'homme. Bon, un peu plus rigolo si vous voulez bien. Dans les rôles féminins-masculins, il y a qu'est-ce qu'on peut montrer de soi-même. Hein. Eh bien, chez la femme, on peut ne pas montrer grand-chose, par exemple, ou montrer beaucoup plus de choses. Il s'agit de différences culturelles assez nettes. La femme qui est à gauche, sur l'écran, hein, il s'agit de la culture européenne, française peut-être même, ou allemande, dans les années 20, hein, à des moments où le fait de se montrer pas mal déshabillé ne posait beaucoup moins de problèmes qu'aujourd'hui. Vous vous souvenez, mon topo s'appelle féminin-masculin. Eh bien, chez les hommes aussi, on peut montrer pas grand-chose ou on peut montrer beaucoup de choses, tout dépendant quelle culture on est. Et les huayronis que vous avez à droite, au fin fond de la forêt brésilienne, hein, bah, sont pratiquement totalement nus et ont juste le pénis relevé et tenu par une ficelle pour pas qu'il traîne dans les ronces, si vous voyez ce que je veux dire. Attribution des rôles aussi, on est chez les Esquimaux. Hein, eh bien, le jeune enfant va se voir attribuer un sexe masculin ou un sexe féminin, non pas en fonction de la biologie, mais en fonction de l'ancêtre qui renaît à travers sa naissance. Est-ce que c'est le retour sur Terre d'un grand chef ancien mort il y a plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, qui est revenu sur Terre et on dira c'est un garçon? Est-ce que c'est le retour d'une femme puissante, très connue, etc.? Eh bien, on dira c'est une fille, et jusqu'à la puberté, ce sera un garçon ou une fille en fonction de cette attribution. Si l'attribution correspond au sexe biologique, ça restera un garçon après la puberté. Sinon, eh bien, il y aura un changement de sexe. Moi, ce n'est pas si grave que ça. Le fait de changer de sexe dans certaines cultures ne pose pas de problème. Tiens, un autre exemple de changement de sexe, entre guillemets. Ici, on est en Afghanistan. Et l'histoire que je vais vous raconter, ça s'appelle l'histoire des Bachapoches. Et le petit livre qui vient d'apparaître sur votre écran, c'est un petit livre pour enfants, c'est un petit livre très intéressant à lire, et quand je l'ai lu, vraiment, je me suis senti enfant. Il raconte l'histoire d'une petite fille, comme la personne qui est la jeune personne qui est en blanc sur cette photo, hein, et qui est un jour devenue Bachapoche, c'est-à-dire qu'on l'a emmenée dans la montagne, hein, on est revenu avec elle déguisée en garçon, et c'est elle qui va accompagner ses sœurs, hein, qui va voir, les sœurs n'ont pas le droit de sortir dehors sans être accompagnées d'un garçon, je ne parle pas de jeunes filles pubères, mais là de tout petits enfants, et donc bah, il faut qu'il y ait un garçon dans la famille. Eh bien, un garçon transformé de cette façon-là, ça s'appelle un Bachapoche, et l'histoire raconte la grande difficulté que cette petite fille, qui est devenue un petit garçon, et qui va redevenir une jeune fille avec la puberté, bah, finalement, va perdre les rôles sociaux qu'elle avait. Et je ne vous raconte pas la suite, lisez-le, c'est un très beau livre. Ici, on est en Albanie. Et la personne que vous voyez, Eh bien, c'est une femme qui a demandé sa conversion en homme. En réalité, elle avait un certain âge, vraisemblablement, elle n'avait pas d'enfant, et elle a demandé à devenir un homme. Oh, ce n'est pas une opération chirurgicale, hein, mais une coupe de cheveux, des habits, des mauvaises habitudes sociales comme celle de fumer, une voix rauque qu'on choisit de rendre plus rauque, hein, et des rôles qui permettent de faire du commerce, d'être propriétaire de terrain, etc. Hein, et qui font que, c'est, là, on voit nettement que ces rôles sont distribués socialement. Alors, certains pourraient commencer à penser, mais quand même, biologiquement, il y a d'autres différences que les organes reproducteurs. Hein. Et c'est vrai, d'une certaine façon, le système hormonal provoque d'autres transformations assez mineures dont on pourrait parler une autre fois. Mais je vais attirer votre attention sur quelque chose qui a été assez étudié, qui est pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes. Et ça, c'est vrai. Alors, attention, c'est vrai, mais culturellement, les hommes choisissent très souvent une femme un petit peu plus petite et un petit peu moins âgée, un peu plus jeune qu'eux. Or ça, c'est une pratique sociale, bien sûr. On pourrait imaginer que les hommes choisissent des femmes plus âgées et plus grandes, hein, ou que les femmes choisissent des hommes plus jeunes et plus petits qu'eux. La moyenne des tailles de l'ensemble des femmes et la moyenne de taille de l'ensemble des hommes hein, est effectivement assez différente. Est-ce qu'il y a une influence hormonale? Est-ce que c'est simplement culturel aussi? Parce que dans beaucoup de cultures, les petites filles passent en dernier au moment des repas, mangent les restes, mangent après les hommes et les petits garçons, et souvent sont malnutries, et ça peut avoir bien sûr une influence sur leur développement. Enfin bon, le problème est encore un tout petit peu débattu. Juste pour rire, je vais vous dire qu'en général, l'homme choisit une femme plus petite, mais il y a quand même quelques exceptions. Donc voilà, féminin, masculin, eh ben, ce sont des rôles attribués. Le rôle de celui qui lit le journal et qui regarde de loin la cuisine. Hein, rôle de la femme qui est en train de faire la cuisine, même si Moulinex libère la femme. Hein, tout ça, ce sont des rôles attribués très jeunes, très petits. On explique au petit garçon qu'il doit jouer avec le pistolet à billes qu'il a là, à la petite fille que c'est à elle qui doit s'occuper des enfants, la couleur bleue, la couleur rose, tout ça. Hein, vous le savez très bien, ce sont des répartitions organisées par la société et les mamans placent leurs enfants très tôt devant les jouets qui correspondent à leur sexe. Je voudrais juste finir cette partie-là en disant que, par contre, hein, il y a vraiment beaucoup de cultures dans lesquelles ce sont les femmes qui font les travaux les plus durs et les plus pénibles. Et ça, ce n'est pas fondé biologiquement, parce que d'autres cultures, ce n'est pas le cas. Mais notons que les cultures qui oppressent les femmes sont de loin les plus nombreuses, on y reviendra. Juste un tout petit chapitre sur le cerveau. Hein, très souvent, on entend, on lit dans des revues, le cerveau droit, c'est le cerveau romantique, c'est le cerveau de la poésie, le cerveau gauche, c'est le cerveau de la raison, du langage, de l'organisation, etc. Des fois, on met des beaux schémas dessus pour parler de l'intuition, de la créativité, de l'émotion d'un côté, hein, du langage analytique, etc. de l'autre. Bon. En réalité, le langage, eh bien, et bien sûr, oui, il y a des zones bien précises du langage, ça c'est vrai, hein, pour formuler les mots, etc. Mais quand quelqu'un parle, pratiquement la totalité du cerveau fonctionne. Hein. Et il n'y a pas non plus un cerveau féminin qui serait bien sûr la partie droite, la créativité, l'intuition, hein, et un cerveau masculin qui serait la logique, les mathématiques, etc. Non, 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 une femme a les mêmes possibilités pour les mathématiques, c'est la culture qui les oriente différemment. Vous allez dire, tiens justement, hein, que par exemple, hein, dans une voiture, hein, ce monsieur est manifestement en train d'engueuler la dame parce qu'elle s'est paumée sur le plan. Et vous allez dire, mais ça quand même, ça a bien une justification biologique. Eh bien, figurez-vous que c'est appris, justement. Oui, oui, bien sûr, hein. Quand les garçons passent leur temps à courir dans le village, à jouer au football, pendant que les petites filles sont en train sont coincées à la maison en train de préparer la nourriture et de s'occuper des jeunes frères et sœurs, eh bien, ils apprennent des choses différentes. Hein. Mais il suffirait de quelques heures dans lesquelles les garçons et les filles jouent ensemble, visitent le village, courent dans tous les sens, etc. Hein, et l'orientation, la capacité d'orientation des uns et des autres sera égale. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que finalement les petits garçons et les petites filles apprennent ensemble, hein, soient éduqués ensemble dans des écoles, ensemble, Donc, j'ai envie de vous dire, hein, il n'y a pas de théorie du genre. Le genre, ce n'est pas une théorie. Il n'y a pas une théorie selon laquelle la Terre serait ronde. C'est une évidence. Eh bien, les rôles féminins et masculins sont répartis par la culture. Et ça s'appelle, hein, le genre, c'est-à-dire le fait de ce qui est donné par la culture et qui est féminin ou masculin. Par contre, j'ai envie de dire que chaque culture a sa théorie du genre. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout la même chose, hein, dans la culture sud-américaine, par exemple, qu'on voit là, hein, ils sont persuadés, convaincus que ce n'est pas du tout la même chose de jouer de la musique ou de danser, c'est vrai d'ailleurs, ce n'est pas la même chose, mais que l'un est attribué à l'homme et que l'autre est attribué à la femme. Bon. Dans cette culture esquimaux, il est évident que ce sont les femmes qui tannent les peaux des phoques, et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'elles ont les dents de devant largement en avant. Hein, ce n'est pas une caractéristique biologique, c'est la culture qui a fait que finalement une différenciation organisée dans les tâches. Les rôles vont être encore différemment attribués chez les gauchos, les rôles vont être complètement différemment attribués en Nouvelle-Zélande, hein, sur la base d'une même biologie, sur la base d'une même espèce humaine. Nous faisons tous partie d'une même espèce humaine. Et les variations individuelles génétiques sont assez importantes, bien sûr, hein, mais les variations culturelles sont sur la base d'un même ensemble qu'on appelle l'espèce humaine. Donc, les rôles féminins et masculins sont attribués par les cultures. Hein. Et c'est notre culture, entre autres, notre culture occidentale, qui est machiste, hein, et qui fait cette organisation du travail qu'on a là avec la machine à écrire pour la femme et le chronomètre pour l'homme. Alors, on va dire, oui, mais ça a changé. Hein. Les femmes maintenant font des travaux différents et on peut trouver une femme qui conduise une pelleteuse. C'est tout à fait vrai. Mais moi, j'aime bien ce petit dessin dans lequel la petite fille dit à sa maman, aujourd'hui, on a eu une leçon sur l'égalité fille-garçon. La maman répond, c'est bien, ma chérie, tu la réviseras avec papa, parce qu'elle a manifestement bien d'autres choses à faire avec la cuisine, le bébé qu'elle a sur les bras, etc. La répartition des tâches femmes-hommes aujourd'hui, elle n'est absolument pas égalitaire. Et ceux qui, aujourd'hui, dans ces genres de manifs, alors je garantis que je n'y étais pas, hein, c'est pas moi qui ai pris la photo. Ceux qui, dans ce genre de manif, hein, disent non à la théorie du genre, non à la phobie des familles, la familiphobie qui est marquée là, eh ben, ils veulent défendre la répartition actuelle, sociale, des rôles féminins et masculins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui défendent ça. Et une femme qui s'est faite une célébrité, Farida Belghoul, à défendre des thèses qui sont profondément anti-féminines, bien sûr. Hein, puis il y a des hommes aussi, bien sûr, entre autres ce Lascar, là, Éric Zemmour, hein, qui s'est fait aussi une réputation avec indifférenciation des sexes, comment est-on arrivé là, le suicide français, parce que justement on va mélanger les garçons et les filles. Pour conclure, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a ni tâche masculine ni tâche féminine. Bien sûr, prendre le métro, manifester, etc. On y trouve des hommes et des femmes. Mais s'il y a que des hommes qui sont allés sur la Lune, si l'architecte de l'opéra de Sydney est un homme et que les architectes en général sont des hommes, eh bien c'est une question d'éducation. C'est parce qu'on a confié à des hommes et que les hommes, d'une certaine façon, dirigent les cultures. Mais il n'y a rien dans nos gènes, dans nos hormones, dans quoi que ce soit, qui décide que telle ou telle tâche est féminine ou masculine. Et s'il n'y a pas cette égalité, eh bien justement, comme ce n'est pas fixé biologiquement, ben on peut lutter contre ces inégalités. Et un certain nombre de femmes, et des hommes aussi, mais je vais vous présenter un certain nombre de portraits de femmes, un certain nombre de femmes se sont battues contre cette inégalité. Et j'ai mis en premier Olympe de Gouges parce qu'elle s'est, au moment de la proclamation des droits de l'homme, elle a dit et la proclamation des droits des femmes. Hein. Mais il y a aussi ces militantes du mouvement ouvrier que vous connaissez, Louise Michel, pendant la Commune de Paris, hein, Clara Zetkin, Rosa Luxembourg. Une figure moins connue que j'ai tenue à mettre ici, c'est Elisabeth Dimitrieff, qui a été secrétaire de la Première Internationale. Et puis, en dehors du mouvement ouvrier, mais dans le mouvement d'émancipation en général, il y a Rosa Parks, que vous connaissez sûrement, Virginia Woolf, qui est une auteure très féministe très connue, hein, avec Simone de Beauvoir, bien sûr, et Françoise Héritier, dont j'ai parlé tout à l'heure et que j'ai voulu vous présenter aussi. Voilà. Un dernier petit point. We want sex equality. Oui, on veut l'égalité des sexes, on veut l'égalité des femmes et des hommes. Et ce petit film que vous trouverez sur Internet assez facilement raconte l'histoire de ces femmes qui, dans les années 60, je crois, en Angleterre, se sont bagarrées, scandalisées qu'elles étaient, comme nous le sommes aussi, hein, par les inégalités de salaire qui atteignaient jusqu'à 50% de différence entre les femmes et les hommes à l'époque, hein, et qui sont encore bien réelles actuellement. Voilà, l'égalité des femmes et des hommes, c'est un combat et j'espère que vous le partagez. Et le topo est fini, mais on se retrouvera à d'autres moments. À bientôt.